Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le président de la République exige le retrait effectif, complet et sans équivoque des troupes rwandaises de la RDC et non un redéploiement ou un déplacement tactique comme c'est le cas à Uvira. Félix Tshisekedi l'a dit hier au sommet extraordinaire de la CRGL. Il salue par ailleurs le nouveau mandat de la MONUSCO axé sur la protection des civils. Nous parlerons de la situation socio-économique difficile de plusieurs ménages du Sud Kivu en cette période des festivités de fin d'année. Problèmes liés notamment à la modicité de ressources avec la crise sécuritaire dans l'est du pays. Mes parents et tuteurs se battent pour apporter ne fût-ce qu'un rayon de lumière à leur famille pour ces fêtes. Avec la porte-parole de la MONUSCO, il sera question de la résolution 2808 qui prolonge d'une année le mandat de la mission onusienne. Elle explique l'apport de cette résolution et comment la MONUSCO compte la mettre en œuvre. Ndeye Kadilo est l'invité de ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Félix Tshisekedi, déclare que le retrait annoncé des rebelles de l'AFC M23 de la ville d'Uvira, dans le sud Kivu, n'est pas effectif. Selon lui, ce prétendu retrait ne correspond ni aux faits, ni aux observations recueillies sur le terrain. Félix Tshisekedi s'est exprimé ainsi hier dimanche par visioconférence au sommet extraordinaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CRGL. Rencontre consacrée à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Il insiste sur la nécessité d'un retrait total des forces étrangères du territoire congolais. En outre, le chef de l'État salue le nouveau mandat de la MONUSCO axé sur la protection des civils. Les grandes lignes de l'allocution de Félix Tshisekedi dans cet élément de Grace Amzati, rendu ici par Onoli Antibonera.
Dans son allocution, le président de la République affirme que des éléments armés demeurent présents dans la ville d'Uvira et ses environs immédiats. Plusieurs positions stratégiques restent occupées et la population continue d'être exposée à des exactions. Félix Tshisekedi souligne qu'un retrait annoncé mais non effectif, non vérifié et non accompagné du rétablissement de l'autorité des forces régulières ne peut être considéré comme réel. Il rappelle que la crédibilité de tout processus de paix repose sur des actes concrets et vérifiés fiable et non sur de simples déclarations. Le chef de l'État exige ainsi les retraits effectifs complets et sans équivoque de troupes rwandaises de l'ensemble du territoire de la RDC, précisant que ce qui est attendu n'est ni un redéploiement ni un déplacement tactique, mais un départ réel conformément aux engagements pris et aux résolutions en vigueur. Abordant le rôle des Nations Unies, Félix Tshisekedi accueille favorablement l'adoption du nouveau mandat de la MONUSCO par les conseils de sécurité. Selon lui, ce mandat réaffirme la priorité accordée à la protection des civils, maintient une posture robuste et proactive de la mission et permet la poursuite d'actions ciblées contre les groupes armés, en particulier dans l'est du pays. Il salue également la pause dans le désengagement progressif de la MONUSCO, estimant qu'il s'agit d'un signal politique fort dans un contexte sécuritaire encore fragile, notamment au site Kivu.
Un sommet extraordinaire consacré à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo s'est tenu hier dimanche à la State House d'Entebbe sous la présidence du chef de l'État ougandais, Yoweri Museveni. Cette réunion ministérielle portait sur la sécurité dans l'est de la RDC et plus largement dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Dans un message diffusé dimanche, Yoweri Museveni s'est dit, je cite, « encouragé par les discussions et par la ferme volonté des pays participants de collaborer pour instaurer une paix et une stabilité durable. Le Rwanda était représenté par son ministre de l'Intérieur Vincent Biruta, tandis que la RDC était représentée par Floribert Anzuluni, ministre de l'Intégration Régionale, indique Actualité.cd. Au sud Kivu, la situation socio-économique reste difficile en cette période des festivités de fin d'année. Plusieurs chefs de ménage reconnaissent que leurs revenus sont durement affectés par la crise sécuritaire qui secoue l'est de la RDC. La plupart des produits autrefois importés des pays voisins comme le Burundi et la Tanzanie se font désormais rares sur les marchés locaux. Mais malgré ces difficultés, de nombreux parents affirment ne pas vouloir baisser les bras. Ils estiment que leurs familles ont elles aussi droit à un moment de réjouissance. Suivez ce reportage de Jean Kassami.
L'habitude de fêter à chaque fin d'année contraste avec la crise sécuritaire et financière dans la partie est de la RDC. Pour certains parents, quelles que soient les difficultés conjoncturelles du moment, Ils se battent pour procurer à leurs enfants un peu de bonheur.
Nos parents nous ont acheté des habits, ils nous ont acheté aussi des chaussures, mais ils n'ont pas eu l'opportunité de nous acheter des souffle-ballons, des décorations, des beaux sapins.
Pour la fête de Noël, maman m'a acheté un pantalon, une chemise et les souliers. J'ai dit à maman et à papa merci. Bonne fête de Noël à tous.
Moi, je suis seulement content parce que nous irons à l'église, nous chanterons, nous danserons, nous ferons des théâtres.
D'autres responsables de famille s'avouent impuissants et encouragent leurs enfants à se conformer aux réalités du moment.
On est presque à 72 heures de festivités, notamment de la fête des nativités. Et jusque-là, normalement, on ne sait pas subvenir aux besoins de la famille, aux besoins des enfants.
Nous, parents, on est beaucoup, beaucoup stressés avec les taux de dollars instables.
C'est compliqué, il n'y a pas d'argent.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
À Bounia aussi, chef de la province de l'Ituri, de nombreuses familles modestes abordent également cette période de fête avec inquiétude. Elles sont confrontées à la fois à la flambée de prix sur les marchés et à la baisse du pouvoir d'achat. Jean-Claude Lokidile s'est entretenu à ce sujet avec plusieurs habitants de Bounia. Son reportage.
Dans plusieurs quartiers de la ville, des parents reconnaissent ne pas être prêts à célébrer Noël. Les moyens sont limités et les priorités vont avant tout à la survie quotidienne. Cette année, pas de cadeaux ni de nouveaux vêtements pour les enfants, confie Chantal Abombé, mère de 6 enfants.
Si je peux avoir seulement une poule, je peux gorger pour mes enfants. On mange à la maison et au reste.
Pour tenter malgré tout de préserver l'esprit de la fête, certaines mères envisagent des solutions alternatives. Foibé et Oaro, par exemple, pense prendre quelques habits à crédit auprès d'une amie commerçante avec l'espoir de rembourser plus tard.
J'ai une maman, elle va me donner et je vais lui payer après.
Pour Judith Nyankwa, cette fête est avant tout spirituelle. Elle prévoit d'aller à l'église pour rendre grâce à Dieu avant de partager le peu qu'elle aura réussi à réunir.
Nous allons diriger à l'église et l'église nous rendra maintenant continuer avec cette joie.
Philemon Matala confie n'avoir pas perçu son salaire depuis 10 mois dans ces conditions, dit-il, difficiles d'envisager. Une fête.
Peut-être nous allons passer cette fête dans la méditation avec les enfants.
Entre résilience, solidarité et renoncement, ces familles modestes tentent malgré tout de donner un sens à la fête de Noël dans l'espoir que les jours à venir apportent des lendemains meilleurs. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, la malnutrition touche de nombreux enfants dans le territoire de Niragongo au nord de Goma. L'organisation locale Jiranim Saada, qui signifie le voisin est une aide, mobilise actuellement la communauté pour faire face à cette urgence humanitaire. Selon son coordonnateur, la situation s'est fortement aggravée depuis le mois de juin, au point de provoquer le décès d'un enfant en novembre. Les villages Dengangi 1, Turunga et Bushagara figurent parmi les plus touchés. En cette période des fêtes de fin d'année, Jackson Kiaviavu appelle les personnes de bonne volonté un élan de solidarité tout en plaidant pour un accompagnement durable en faveur de ces enfants en danger. On l'écoute.
Depuis juin de l'année à court, nous avons assisté à une malnutrition chez les enfants et une situation qui tend à s'amplifier. Nous avons lancé une enquête qui s'est étendue sur 92 enfants dans 17 familles du groupement Munigi. Nous avons constaté avec amertume que 72% de ces enfants sont victimes de cette malnutrition. Vraiment, nous demandons à toute personne de bonne volonté de venir nous appuyer puisque nous pensons que si nous continuons les efforts, on peut vraiment réduire cette maladie, puisque demain après demain, nous allons enterrer nos enfants comme nous avons fait les mois passés. On a enterré un enfant qui est décédé de cette maladie. Nous pensons qu'il faut vraiment prévenir demain pour ne pas encore enterrer des enfants morts de la malnutrition. Et aujourd'hui, je suis en train même de constater que ce ne sont plus les moins de 5 ans. Même ceux qui ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, vous constatez qu'ils ont aussi la malnutrition. Alors nous craignons qu'on va assister à une catastrophe.
Jackson Kiaviavu ajoute que le manque d'emploi pour les parents est le principal facteur de cette précarité. Pour briser ce cycle, son organisation Jiranim Saada développe l'élevage des cobayes, des cultures maraîchères et dispense des conseils en nutrition, cela pour aider les parents à nourrir convenablement leurs enfants. L'organisation de défense du droit à des opprimés, ODO, accueille favorablement le renouvellement du mandat de la MONUSCO pour un an. Cette organisation de défense des droits humains basée à Beni, active dans le domaine de la lutte contre les violences sexuelles, recommande à la mission onusienne de sensibiliser la communauté à s'approprier son nouveau mandat, mais également d'user de tous les moyens en sa possession pour appuyer le gouvernement congolais dans ses efforts de stabilisation et de pacification en cours dans la partie est du pays. Junior Mumbere et son coordonnateur expliquent leurs attentes au téléphone de Marco Marufimbo.
Nous avions suivi avec intérêt le 19 décembre 2025 où le Conseil de sécurité de l'ONU avait décidé à l'unanimité de prolonger le mandat de la MONUSCO. Mais le contexte géopolitique a changé, surtout à la MONUSCO, de prendre un moment d'expliquer le nouveau mandat pour que ensemble nous puissions aller de l'avant pour espérer au retour de la paix dans la partie est, bien sûr, de la République démocratique du Congo. Il est vraiment très important de prendre une part à active dans la supervision des cessez-le-feu décidés à Doha. Il est aussi important de porter une attention particulière aux zones d'étation de Nord Kivu, Sud Kivu et aussi Ituri, d'appuyer les autorités congolaises dans le désarmement des FDLR conformément au processus de la paix en cours. Et notre élément, que le Conseil de sécurité ne se limite pas toujours à condamner les offensives menées par AFC-M23, mais il est très important que l'ONU de prendre les mesures nécessaires pour limiter les dégâts qui se passent dans notre pays.
ODO recommande également au gouvernement central de procéder, je cite, au nettoyage systématique de l'armée qui, depuis un certain temps, est infiltrée par des ennemis de la paix. Fin de citation. Les activités reprennent ce lundi à l'Assemblée provinciale du Haut-Touélé. Elles avaient été suspendues depuis 3 semaines par le vice-premier ministre de l'Intérieur à la suite d'une motion de défiance initiée par quelques députés provinciaux contre le gouverneur de province. Ces derniers lui reprochent notamment une mauvaise gestion. Cette reprise annoncée le week-end par le président de l'organe délibérant fait suite à une mission qu'il a effectuée dernièrement à Kinshasa. Justin Zamba explique comment cette mesure a été levée par le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Ses propos ont été recueillis par Jacques Mokonkole.
Le VPM a pris les mesures de lever la suspension de l'Assemblée provinciale de Haut-Touélé, de lui permettre de ne plus examiner la motion, mais de continuer la plénière de budget. Parce que examiner la motion sera violer l'ordre du chef. C'est dans ce sens que pour la paix, le chef de l'État a suspendu certaines décisions de l'Assemblée provinciale de tous les pays, ce n'est pas seulement Haut-Touélé. Nous sommes l'émanation du gouvernement Satra. Nous devons nous soumettre. C'est pour cela que je demande aussi aux députés pétitionnaires, mentionnaires, de revenir au calme. Et je demande aussi au gouverneur de s'apaiser. C'est un exercice démocratique. Il ne doit pas devenir comme un conflit personnel avec les élites. Nous devons aussi nous-mêmes s'approprier de cette paix qui réclame à chaque province.
La plénière de ce jour va donc examiner le projet de budget de la province pour l'exercice 2026. À Moana, dans la province du Congo central, les activités socio-économiques sont paralysées depuis ce matin. La population qui n'a pas vaqué à ses occupations a répondu à l'appel à la ville morte lancé par la synergie des acteurs de la société civile du territoire. Cette journée de mobilisation s'inscrit dans une série d'actions citoyennes annoncées dans une correspondance officielle datée du 19 décembre et adressée aux autorités nationales, provinciales ainsi qu'aux services de sécurité. La société civile exige le départ de l'administrateur du territoire qu'elle accuse notamment de mauvaise gouvernance persistante. Nous sommes au Kasaï oriental. Malgré les difficultés techniques liées à la fourniture d'énergie électrique d'eau à Mbujimayi, la Société nationale d'électricité SNEL et la Régie des eaux affirment fournir des efforts pour desservir la population. À cet effet, un communiqué conjoint a été signé le week-end par les deux entreprises annonçant les dispositions prises pour assurer un service minimum. Que retenir Esther de la FINA?
Dans ce document, la SNEL et la Régie des eaux informent leur clientèle que, suite à la panne survenue le 13 novembre dernier sur le transformateur de la sous-station de Chibwe, une panne qui dure depuis près de 40 jours, des mesures provisoires ont été mises en place pour soulager les abonnés. La SNEL indique qu'elle fournit du courant thermique chaque jour de 18h à 24h avec un délestage renforcé dans différents quartiers. De son côté, la Régie des eaux annonce produire 40 m3 cubes d'eau par jour grâce à l'énergie électrique autoproduite permettant une distribution un jour sur deux dans les zones moyennes et hautes contre une moyenne de 8 à 10 000 mètres cubes auparavant. Les deux entreprises assurent que leur hiérarchie respective annonce l'arrivée imminente en Bujimaï d'un nouveau transformateur dédié MVA-35/30 kV destiné à remplacer celui de 5 MVA-35/30 kV tombé en panne. En attendant une solution durable au problème d'eau et d'électricité, certains habitants de Mbujimaï se rabattent sur les eaux de pluie tombées ces derniers jours. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes en Afrique du Sud. Les enquêteurs poursuivent après la fusillade qui a fait 9 morts et au moins 10 blessés hier dimanche dans un bistrot dans le township de Bakersfield à l'ouest de Johannesburg. Selon la police, une douzaine de suspects inconnus à bord d'un minibus blanc et d'une berline argentée ont ouvert le feu sur les clients de ce lieu peu avant 1h du matin. Le volume du commerce entre la Chine et l'Afrique atteint 314 413 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de cette année, soit une hausse de 17,8% en glissement annuel selon les données récemment publié par l'administration générale de douanes de Chine. Ce chiffre dépasse le total de 2024 qui s'est levé à 295 562 milliards.
L'invité.
Il s'agit d'Ndeye Kadilo, porte-parole de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo MONUSCO. Elle explique l'apport de la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vient de prolonger pour un an le mandat de la MONUSCO et aussi comment la mission onusienne compte la mettre en œuvre. Ndeye Kadilo s'entretient avec Jean Gandou.
Ndeye Kadilo, bonjour.
Bonjour Jean.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient à travers la résolution 2808 de prolonger d'un an le mandat de la MONUSCO. Qu'est-ce que cette nouvelle résolution apporte de nouveau par rapport à celle de l'année dernière?
La résolution 2808-2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies apporte plusieurs éléments significatifs et mesures de renforcement pour la mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo. La nouvelle résolution prolonge le mandat de la MONUSCO jusqu'au 20 décembre 2026. Contrairement au plan précédent, elle prend acte d'une pause dans le désengagement de la MONUSCO en raison de l'évolution de la situation sécuritaire, notamment au Sud Kivu. Elle intègre de nouveaux cadres diplomatiques tels que l'accord de paix de Washington signé en juin 2025 et le cadre de paix de Doha novembre 2025 et autorise la MONUSCO à soutenir un cessez-le-feu permanent via un mécanisme de suivi et de vérification COVM. Enfin, elle exprime une inquiétude inédite face à l'utilisation de technologies sophistiquées par les groupes armés comme des missiles sol-air et des drones suicides.
Quelles mesures la résolution prévoit-elle pour lutter contre les violations des droits de l'homme et l'impunité, notamment ce qui concerne les violences sexuelles et les crimes contre les enfants?
Pour combattre l'impunité, la résolution 2808-2025 prévoit les mesures suivantes. En termes de redevabilité et de justice, elle exhorte le gouvernement congolais à traduire en justice les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, tout en renforçant la coopération avec la Cour pénale internationale. Dans le cadre du vetting, du filtrage, elle préconise la mise en œuvre d'un système de filtrage systématique pour exclure des forces de défense et de sécurité toute personne soupçonnée de violation des droits de l'homme. Dans le domaine des violences sexuelles, la résolution 2808 demande l'accélération des arrangements de surveillance et de rapports sur les violences sexuelles et exhorte le gouvernement congolais à financer les plans d'action pour les réparations aux survivants. Dans le cadre de la protection de l'enfance, elle exige la fin immédiate du recrutement d'enfants et demande que ceux-ci ne soient pas détenus pour leur association avec des groupes armés, mais remis à des acteurs de la protection de l'enfance.
Comment cette nouvelle résolution aborde-t-elle les questions des groupes armés et même du M23 qui bénéficient du soutien du Rwanda tel que reconnu par la communauté internationale?
La résolution 2808 condamne fermement l'offensive du mouvement du 23 mars et de l'Alliance du fleuve Congo, mentionnant explicitement le soutien direct et la participation des forces de défense rwandaises RDF. Elle exige le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais et la cessation de tout soutien au mouvement du du 23 mars. La résolution 2808-2025 demande à la MONUSCO de surveiller l'embargo sur les armes, notamment en signalant les mouvements de troupes et d'armes à la frontière Est, et dénonce l'usage de brouillage GPS dans les zones contrôlées par le mouvement du 23 mars et l'Alliance 9 Congo. La mission reste aussi autorisée à mener des opérations offensives ciblées via sa brigade d'intervention, la FIB, pour neutraliser les groupes armés.
Comment la MONUSCO entend-elle mettre en œuvre cette résolution quand on sait qu'elle a du mal à se mouvoir dans les parties qui sont sous occupation de la rébellion?
Pour opérer malgré les contraintes de mouvement que la MONUSCO vit dans les zones sous contrôle de l'Alliance Congo au mouvement du 23 mars, la résolution autorise une posture robuste et ordonne le maintien d'un déploiement proactif, mobile et flexible, particulièrement dans les zones à haut risque. Elle préconise aussi l'usage des technologies de surveillance, des systèmes aériens sans pilote, les drones, afin de surveiller les violations de l'embargo et les mouvements des groupes armés. En ce qui concerne la liberté de mouvement, le Conseil exige la levée immédiate de toute entrave à la circulation de la MONUSCO et exprime son intention de sanctionner ceux qui planifient ou participent à des attaques contre les casques bleus.
Vous dites que la nouvelle mission de la MONUSCO a été renforcée. Est-ce qu'à ce stade, on peut dire que la MONUSCO aura besoin des troupes supplémentaires pour mener à bien cette nouvelle mission sur le terrain?
Pour ce qui est des troupes, la résolution ne mentionne pas l'ajout de troupes supplémentaires au-delà des plafonds déjà établis. Elle fixe le plafond autorisé à 11 500 militaires, 600 observateurs militaires et officiers d'état-major et environ 1 700 membres du personnel de police. L'accent ici est mis sur l'adéquation des ressources existantes et sur le fait que les contingents doivent être disposés, capables et équipés afin de remplir leur mission dans un environnement de menace asymétrique.
Est-ce que nous pouvons dire qu'à ce stade, le nouveau mandat caractère coercitif vis-à-vis de ceux qui pourraient gêner la bonne exécution de la mission de la MONUSCO sur le terrain?
Le nouveau mandat possède effectivement un caractère coercitif significatif afin d'assurer son exécution. Il ordonne le recours à la force agissant sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité autorise la MONUSCO à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter de son mandat. Et il ordonne aussi les offensives ciblées, la brigade d'intervention de la force est spécifiquement autorisée à mener des opérations offensives ciblées de manière unilatérale ou conjointe afin de neutraliser les groupes armés. Le Conseil exprime son intention d'imposer des sanctions contre les individus ou entités qui planifient, dirigent ou participent à des attaques contre les casques bleus ou le personnel des Nations Unies. La résolution exige également la levée immédiate de toute contrainte à la liberté de mouvement de la MONUSCO.
Dès qu'a dit l'eau, je rappelle que vous êtes porte-parole de la MONUSCO et merci de vous être prêté à nos questions.
Merci Jean.
Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention.